You are powerful.
We run this mother.
La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire à du clito.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, pendant les vacances de Noël, nous célébrerons les femmes puissantes, dirigeantes, chirurgiens, philosophes ou actrices. Et ce samedi, c'est l'écrivaine la plus rock du 21e siècle. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour Virginie Despentes. Merci de nous recevoir chez vous.
Je suis tellement contente de vous voir aussi. Je ne sais pas si on va se mettre là, parce que là, il y a beaucoup de bruit. Donc c'est comme vous voulez. On peut se mettre là ou venez voir, parce que je ne sais pas si on tient tous. C'est bien ici.
C'est votre bureau ?
C'est le bureau de Tania. Le mien, il est vraiment en chaos.
En chaos ?
En chaos.
Et vous avez un bureau ici ?
J'ai un bureau, oui.
Vous écrivez ici ?
J'écris ici. Enfin, je n'écris pas beaucoup à Paris. Ça, c'est Philomène, c'est ma chienne. Et quand elle voit des gens qui... Elle est convaincue que tout le monde vient jouer avec elle.
D'accord. Donc là, on va jouer avec Philomène.
On va essayer de la déporter, parce que sinon, elle ne s'arrête pas.
On va déporter le chien, donc.
Est-ce que ça dérange si je suis ?
Pas du tout.
Pardon ?
Pas du tout.
Génial.
Ça fait longtemps qu'on la pistait. Faire une série sur les femmes puissantes sans elle, il y avait un truc qui manquait. Puissance des mots, puissance des femmes, puissance du sexe, elle a tout. Encensée des un rock au Figaro, elle siège au Goncourt et sent l'air du temps comme personne depuis Baise-moi il y a 30 ans jusqu'à Vernon Subutex aujourd'hui. Mais elle n'était pas dispo, en train d'écrire à Barcelone ou ailleurs, et puis un jour elle a dit oui, va pour l'interview, chez elle. Un appartement bigarré près des buts de Chaumont qu'elle partage avec son amie et leur chienne. Des esquisses de femmes sensuelles au mur, mais aussi des photos de Michael Jackson et de David Bowie. Et puis des livres, partout. La plus grande écrivaine française vivante est d'une douceur assez déconcertante. Elle sourit beaucoup et semble un peu timide au début. Et puis, assez vite, elle se lâche. Son verbe claque, comme sa pensée. Virginie Despentes est notre invitée.
Virginie Despentes, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi ?
Que j'aime bien être perçue comme ça, que ça ne veut pas dire grand-chose pour moi de l'intérieur. Je ne me dis pas le matin quelle puissance ou quelle... Je ne me dis pas ça, quoi, ouais.
Ça voudrait dire quoi, une femme puissante ? Et pourquoi vous aimeriez bien ?
Parce que déjà, une femme puissante, ça inspire la crainte, donc on va moins chercher à t'ennuyer. Et je ne vois pas de paradoxe entre femme et puissante. J'aime bien l'idée de la puissance chez les gens que j'aime bien. Je crois que je m'entoure assez facilement de gens que je trouve puissants. Mais ce n'est pas très précis.
Puissance. Mais c'est de quel ordre alors ? C'est une forme de charisme, une forme d'assurance ? C'est quoi la puissance ?
Ce serait par exemple pour quelqu'un qui est écrivain, une façon de savoir porter des pages qui portent un coup, qui portent un message puissant, comme une puissance de souffle.
Ou... Donc quand on dit le livre de Despentes... Ça a un souffle, ça fout une baffe, ça donne une claque, ça vous plaît ?
Oui, oui, ça me plaît.
Mais d'être clair, pourquoi c'est si difficile pour les femmes, encore aujourd'hui, d'avouer qu'elles sont puissantes ?
Mais là-dessus, je crois que c'est difficile en général de dire « je suis puissant », parce que ça veut dire que si tu le dis toi-même, t'es un peu con. Ou homme ou femme, il y a quelque chose, t'arrives à quelque chose de naïf, à moins d'avoir 13 ans. Pour les femmes, je crois pas que ce soit difficile. Je crois que ça l'est beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Je crois que les choses ont changé très rapidement. Elles peuvent changer très rapidement, mais là, elles ont changé. J'imagine qu'il y a pas mal de femmes qui se sentent puissantes, qui sentent plus, qui n'ont pas de problème avec ça, qui savent que ça ne va pas leur ôter toute séduction.
Est-ce que vous êtes ambitieuse, par exemple ? Est-ce que vous dites oui, je suis ambitieuse ?
Ouais, moi, je suis ambitieuse, mais avant tout, je suis surtout paresseuse. Et les deux ne sont pas compatibles.
Ah non,
Et c'est vraiment tout en haut de ce que j'aime faire, c'est rien faire. J'aime rien faire et voir personne. Et ça ne marche pas avec l'ambition. On veut pas... Mais sinon, si on pouvait être ambitieuse sans rien faire, je serais très ambitieuse. J'aime bien l'idée de réussir. J'aime bien l'idée de pouvoir, j'aime bien l'idée de réussir. Mais j'aime surtout rien foutre.
Justement, sur l'idée de pouvoir, écoutez ce que vous disiez en 1998, vous vous rappelez de ça ?
Moi, je veux le pouvoir maintenant, quoi. En tant que femme, et puis aussi en tant que personne qui n'est pas née dans les bons quartiers.
C'est court, mais ça a le mérite de tout dire.
C'était déjà clair dans ma tête, apparemment. Mais c'est vrai que j'aime bien le pouvoir. J'ai pas un problème de...
Je veux le pouvoir tout de suite, vous dites. Vous avez 30 ans.
J'aimerais bien avoir vraiment le pouvoir, quoi. Pouvoir dire, voilà, on va me promener dans la rue et dire au fur et à mesure, on va faire comme ça, ça, ça va pas se passer comme ça. Ça me plairait, mais ouais, pour avoir le pouvoir, faut... Comme disait Fatou Diome, avoir les mâchoires solides, il faut avoir aussi une grande capacité de travail, et ça, je ne l'ai pas. Et je ne veux pas l'avoir.
Je voudrais que vous écoutiez une autre voix, une autre femme qui parle de la peur.
Je crois que de toutes les émotions, de tous les sentiments, la peur est vraiment le seul qui soit capable de paralyser. Donc de neutraliser vos capacités, vos potentialités, votre réactivité, de vous empêcher, de vous interdire. Je pense qu'intuitivement, j'ai pressenti qu'il fallait vraiment m'en débarrasser. Il fallait vraiment construire ma liberté dans mon rapport à la peur. J'ai recommencé à avoir peur lorsque j'ai eu des enfants, pour eux. Et là, l'imagination se débride, hein. Mais voilà, ça fait un moment maintenant, j'ai réglé tous mes comptes avec la peur.
Christiane Taubira.
Ouais, Christiane Taubira, vraiment, elle, c'est vraiment une femme puissante. Ouais. Enfin, comme je l'imagine. Non, moi, j'ai pas peur d'avoir peur. J'ai peur. La peur me traverse très régulièrement, mais j'ai pas peur d'avoir peur. C'est la même chose. Je me dis, bon, t'as peur.
Accepte
et vas-y quand même, s'il te semble qu'il faut y aller. Parce que des fois, bon, la peur, parfois, est bonne conseillère quand même, il faut reculer. Mais sinon, d'autres fois, vas-y.
Vous avez peur de quoi?
Ça se voit par un livre comme Vernon Subutex, il est fondé sur ma peur de perdre complètement ma place dans la société, d'être dehors. Moi, j'ai peur de...
Malgré aujourd'hui, Juré du Goncourt, les centaines de milliers de livres que vous vendez, toute la respectabilité que vous avez acquise, vous avez encore peur?
Ouais, parce que les choses
c'est terminé, maintenant tu sors.
Les choses sont pas stables et on le sait. Un gouvernement peut changer très vite. Les gens vont pas se mobiliser si on décide, par exemple, non, les femmes lesbiennes seront plus publiées, elles perdront tout, elles vont sortir du pays. Les gens vont pas s'arrêter pour ça. Ça se passe parfois.
Vous craignez ça?
Moi, ouais, quand je dis j'ai peur, moi, j'ai pas
quand un petit
France,
peu peur. J'ai peur partout. Une femme lesbienne ne sera plus publiée?
Je ne le crains pas. C'est-à-dire, je n'y pense pas tous les jours, mais ouais, si, je pense que ça me paraît tout à fait. L'idée, par exemple, qu'un jour je sois torturée sur la place publique, massacrée à coups de bâton, me paraît pas impossible. Tout peut se passer. On peut être demain. On voit dans nos villes, on peut être demain à la place, dans un autre pays, des réfugiés qui sont en bas de chez nous. Ça peut être nous, ça prend une année, quoi.
Et du coup, vous censurez dans votre écriture?
Non, parce que justement, j'ai pas peur d'avoir peur. Je me dis, de toute façon, s'il y a quelque chose comme advienne que pourra, si ça se passe, ça se passe. Ce qui doit arriver, quelque chose comme ça, ce qui doit arriver, arrivera. Et par exemple, si la France, on était appelé à partir sur les routes pour une catastrophe nucléaire après-demain, ben, faut pas avoir peur d'avoir peur, on ira, quoi.
Vous dites dans King Kong Theory, je vous cite, « Les femmes de pouvoir sont les alliées des hommes, celles d'entre nous qui savent le mieux courber les chines et sourire sous la domination. »
Je ne pense pas forcément des femmes de pouvoir, ça je le pense vraiment de la classe, de la féminité bourgeoise. Je le pense de plus en plus. Je pense que la féminité bourgeoise, c'est la féminité la plus humiliée, la plus dressée, la plus surveillée, la plus punie quand elle déroge aux règles qui lui sont imposées.
C'est quoi la féminité bourgeoise? Définissez.
En vérité, c'est la féminité telle qu'on l'entend en général, parce que c'est la féminité qui a été présentée par la publicité ou par le cinéma, enfin par les cercles de pouvoir, qui a été émise comme étant la féminité correcte, une féminité d'hôtesse. Toujours souriante, qui montre pas ses émotions, qui est toujours là pour faire plaisir et que les hommes se sentent bien et qu'ils se sentent valorisés, et qu'ils sentent qu'ils sont intelligents et qu'ils sont écoutés et qu'ils sont justement vraiment puissants et que c'est une féminité qui est vraiment faite pour que les hommes de pouvoir se sentent bien.
Et ça vous heurte?
Ça me heurte.
Vous avez envie de dire à la femme, c'est toi qui te soumets, il faut que tu sors de ça?
Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas toutes dans la féminité bourgeoise. Ça peut pas être un modèle pour toutes. Et j'aurais envie de dire aussi, de plus en plus souvent aux femmes bourgeoises, faites l'étude de votre propre féminité, de vos propres conditions d'oppression, au lieu de vous inquiéter des femmes voilées, au lieu de vous inquiéter des travailleuses du sexe. Observez ce que vous vivez, ce que vous imposez, à quel point, par exemple, vous avez faim. Parce que la femme bourgeoise, ce qui la caractérise, elle ne mange pas. C'est être au régime toute sa vie parce qu'il y a un critère qu'on doit absolument rentrer dedans parce que sinon l'homme n'est pas content quand il t'a à son bras parce que c'est pas valorisant. Et j'aurais tendance à dire aux femmes bourgeoises à un moment donné, arrêtez de parler des autres, arrêtez de vous inquiéter pour le sort des autres parce que les autres femmes s'en chargent très bien elles-mêmes. Occupez-vous de vos propres conditions d'oppression parce qu'elles sont vraiment plus strictes que ce qu'on a tendance à croire. On voit toujours la femme bourgeoise comme une femme privilégiée, elle l'est, mais elle est aussi dressée d'une façon beaucoup plus précise que n'importe quelle autre femme.
Virginie Despentes publie son premier roman aux éditions Florent Bassot. Le titre « Baise-moi » est beaucoup plus tendre et beaucoup moins direct que le livre lui-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de sexe?
Un peu, ouais.
Un peu, non? Beaucoup?
Quand même, ouais.
Il n'y a que ça?
Et aussi, pas mal de drogue. L'action se passe dans un pipe-show. Vous avez l'air de bien connaître cet endroit, si je vous ai bien lu. Pourquoi et comment?
Parce que j'ai travaillé en fait, mais pas bien longtemps dans le pitch show, quoi. Mais tous les trucs de prostitution en fait, je connais un peu bien.
Virginie Despentes, ça parle quand même des fantasmes sexuels des uns des autres.
Une jeune femme à l'écriture choc et qui ne mâche pas ses mots.
Vos livres sont très crus, hein, quand même. Hein.
Mmh. Ces histoires aussi salées qu'haletantes
Ce sont ses potes assez destroy qui les lui inspirent.
Eh ben, je m'attendais à une, je sais pas moi, à quelqu'un de, qui ressemble à ces personnages. Et il y a quelque chose de doux dans votre façon de parler qui dément un peu la furia qu'il y a dans vos bouquins.
Dites-moi, Virginie, vous êtes en bourgeoisie ou non ?
Par rapport à l'époque de Besoin, ouais, clairement. Ouais.
Vous n'allez pas nous faire un bébé quand même ?
Non, mais je crois que ça va faire.
Au début, quand je compris que j'allais devenir écrivain, je trouvais ça pas très glamour, quoi.
Vous vous sentez toujours comme une pièce rapportée là, dans la famille des écrivains ?
Ah, moi.
Ah, ça y est.
Ça y est, on y est.
Quoi ?
Oh, on reçoit Virginie Despentes !
Oh, la star !
Le génie !
Mais l'icône !
Ouais, oh, putain, faut que je sois à la hauteur, merde !
Je tirais sur un gros joint en étudiant les fesses de J.Lo. Comment ça commence, un roman, Virginie Despentes ?
Qu'est-ce qui fait que vous décidez de vous installer à la table et de dire, bon, allez, j'y vais ?
Alors, dans mon cas, c'est assez simple, c'est si j'ai pas ça, j'ai rien.
Depuis Baise-moi, il y a 25 ans, jusqu'à Vernon Subutex, vous êtes devenue l'écrivaine française la plus respectée, à la fois par les Inrocks et par le Figaro. C'est dire, mais c'est vrai, non ? Vous êtes à la fois encensée par les deux.
En ce moment, ouais. Ça n'a pas toujours été vrai.
Vous siégez au Goncourt. Votre manifeste King Kong Theory est cité comme le plus grand texte féministe depuis le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Devenir une star mainstream, Virginie Despentes, c'est bien ? C'est angoissant ? C'est quoi ?
J'ai l'impression qu'en général, il n'y a plus la place, comme il y a eu à un moment donné, pour une culture alternative, underground ou même avant-gardiste. Il y a eu des époques où c'était tout à fait possible de passer toute sa vie à travailler et être bien, sans que ce soit une ghettoisation, et de vraiment pouvoir se déployer, s'épanouir dans sa marge. J'ai l'impression que cette place, et c'est très important dans ce qu'on vit en ce moment, depuis plus de 10 ans, on l'a perdue en littérature, en cinéma, le projet alternatif. Il n'y a plus de place dans les villes, parce que c'est trop cher, il n'y a plus de place non plus. On le sent, il y avait toute une littérature, par exemple, qui ne se vendait pas comme du mainstream. J'ai l'impression que toute cette part de l'art, on l'a perdue dans ces 10 dernières années. Donc c'est bien d'être mainstream au sens où c'est ça ou vraiment la précarité. Parce que je n'ai pas eu un désir profond d'être mainstream ou de gagner plus d'argent que ce dont j'ai besoin. Mais j'ai un désir profond de pouvoir faire les choses sans que ce soit dans une douleur continuelle. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait la bohème à un moment donné, c'est devenu vraiment une douleur. C'est vraiment une précarité. Et donc, dans ce contexte, être mainstream me plaît. Et sinon, ça ne m'embarrasse pas.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a des gens qui vous le reprochent, qui vont dire « elle s'est calmée, Virginie Despentes, elle s'est embourgeoisée ».
En même temps, je ne peux pas faire le film « Baise-moi » tous les ans, parce qu'on là, pour le coup, je n'ai pas assez de puissance. Pour prendre ce que ça a été d'apprendre dans la gueule, je n'ai pas la puissance pour le refaire tous les ans. Donc, je n'ai pas la sensation d'avoir le choix non plus. Je ne peux pas, tous les 5 ans, porter un projet et prendre la France dans la gueule. J'ai pas les épaules et je pense pas qu'on m'aurait permis de le faire de toute façon. En admettant que je réussisse à me régénérer à toute vitesse, à me récupérer, à ce que ça ne devienne pas quelqu'un de d'aigri ou de. De toute façon, je pense qu'on m'aurait pas laissé l'espace pour le faire. Je suis vivante. J'ai survécu, quoi.
Est-ce que le succès vous a changé ?
Énormément, oui. La notoriété m'a changé. Le fait qu'on sache qui je suis. Ça a été très compliqué pour moi et ça là-dessus justement Béatrice Dalle a été quelqu'un de vraiment important parce qu'elle a un rapport tellement joyeux à sa notoriété, je crois que j'ai un peu modélisé sur elle et du coup ça me pèse plus. Et sinon là le succès m'a changé, ouais c'est un apaisement parce que c'est difficile de dire à quelqu'un qui est très lu tu devrais pas écrire par exemple sur la légitimité. On peut me dire t'auras jamais ta place dans la littérature, quelque chose. Moi franchement au fond je me dis j'en ai rien à foutre. Je m'en fous, je suis tellement lu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si je suis pas dans la littérature, c'est pas grave. Je suis quand même énormément lu et donc ouais, ça m'a calmé, je pense.
Vous restez radical dans votre manière de penser ou non
Je suis brutal. J'ai une brutalité. Je suis pas tout le temps brutal. Il y a
vous
une douceur
une
aussi.
C'est ce que j'allais vous dire. Mais avez une brutalité et une grande douceur quand
ouais,
on vous voit.
Mais j'ai une brutalité aussi. Ça me passe pas. Ouais, j'ai des réactions. Des fois, j'ai une brutalité. Des fois, je réfléchis à coups de poing.
À chaque femme que j'interviewe dans cette série, je demande quel objet incarne pour elle ou représente pour elle la femme puissante.
Et moi, j'ai choisi le marteau.
Un marteau, d'ailleurs, vous l'avez en main.
Et
ça sert à quoi, un marteau
demandé,
ça...
J'ai un marteau
pour
en main.
Taper
ça, un marteau, ça enfonce le clou. Il faut enfoncer le clou, parfois. Il faut taper bien pour bien enfoncer le clou. Et parfois, c'est pour démolir. On va démolir une situation, démolir un concept, l'ouvrir en deux pour regarder ce qu'il y a dedans et le remonter. Et puis, des fois, c'est pour taper sur les gens.
Vous tapez souvent sur les gens avec
non,
le marteau.
Non, j'y pense souvent. Je le fais rarement, parce que déjà, j'ai rarement mon marteau sur moi. Et souvent, je m'imagine, il y a des gens, je me dis, un grand coup de marteau dans ta gueule, c'est pas. Et ça, ouais, ça me soulage de le penser, ou de le visualiser même. Ouais.
D'où vient votre conscience féministe, Virginie Despentes ?
Parce que ma mère était féministe. je voyais ma mère en réunion avec d'autres femmes et que c'était joyeux. Ça a toujours été une évidence quoi, pour moi. C'est des sujets qui étaient discutés dans la maison et il y avait quelque chose d'attirant.
Et à part votre mère, vous avez un autre modèle féministe ?
Après, j'ai eu plusieurs modèles féministes. La grande lecture avant que j'ai 20 ans, ça va être Angela Davis. Parce que sa façon, elle, d'articuler classe, race et genre, ça m'a semblé évident tout de suite. Et ça m'a, je crois, vraiment structuré, la lecture d'Angela Davis. Après, j'ai eu d'autres modèles de femmes puissantes. Parce que des modèles de femmes féministes, il y en avait peu, en fait. Mais par exemple, Cathy Acker était quelqu'un de très important avant que je commence à écrire. Lydia Lunch a été quelqu'un de très important quand j'étais petite. Courtney Love, quand elle est apparue, a été quelqu'un de très important pour moi. C'est-à-dire toutes les femmes qui étaient un peu...
À la marge
et un peu brutales, justement, qui avaient une brutalité.
Lydia Lunch, vous l'avez choisie quand je vous ai demandé, comme à chaque femme, de choisir une chanson qui incarne la puissance des femmes. Vous avez choisi ça.
Noise, Trust the Witch, c'était le choix musical de Virginie Despentes.
Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
Trust the Witch, crois la sorcière. Pourquoi ?
Parce que Lydia Lunch, c'est vraiment la grande prêtresse. Et si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent, c'est toujours aller voir Lydia Lunch quand elle joue en concert dans vos villes. Parfois, elle est dans des humeurs exécrables, elle engueule tout le monde. C'est pas grave, tu ressors, t'es quand même content, quoi. Et c'est vraiment une chanteuse, c'est-à-dire qu'elle transmet quelque chose.
Vous auriez aussi pu choisir ça, je crois, non ?
Ouais, Beyoncé, j'aurais pu choisir Beyoncé. Mais je me sens un petit peu vieille, peut-être, mais sinon, j'aurais pu choisir Beyoncé. Si on me demandait de parler du féminisme contemporain, ouais, là, tu pourrais choisir Beyoncé tout de suite. Je pense qu'elle a vraiment marqué un tournant.
C'est-à-dire qu'avant, les femmes n'osaient pas se dire féministes, et le fait que Beyoncé, la mégastar absolue, dise « Who runs the world, girls ?»
Ouais, ou quelle l'image, quand elle est apparue debout avec féministe en lettres de 4 médias. Ça a été discuté par beaucoup de féministes qui trouvaient ça discutable. Moi, je trouvais ça absolument enthousiasmant. Ouais, c'était la première fois qu'on voyait vraiment quelqu'un au sommet de la pop comme Beyoncé nous dire je suis féministe et c'est pas discutable, c'est pas négociable, c'est pas je suis un petit peu féministe, je me sens peut-être éventuellement, non, je suis féministe. Et je crois, moi, qu'elle a changé beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'elle a annoncé MeToo, qu'elle a annoncé un moment où les jeunes filles allaient vraiment changer leur façon de se positionner dans le monde par rapport à leur féminité et par rapport à leur féminisme.
Il y a une femme, une amie à vous, qui pense que vous êtes une femme puissante. Écoutez-la, Béatrice Dalle.
Elle vend des milliers de livres comme Harry Potter, et puis parce qu'elle est magique. Elle est d'une intelligence foudroyante. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a, quand on connaît ses livres, qui a vécu des choses hardcore au possible. Et rien ne l'a abîmée, rien ne l'a aigrie, tout l'a magnifiée. Tu sais, elle a tout avalé, ces choses si difficiles. Et ça lui a donné, ben, puisque c'est le thème de l'émission, voilà une femme puissante, quoi.
Tu vois. Virginie Despentes, ouais, c'est une femme puissante,
ouais, je trouve.
Pourquoi ?
Parce que, par sa liberté aussi, parce qu'elle a changé des choses pour les femmes, sa délicatesse aussi.
Moi, ouais, Béatrice et moi, on s'aime. On s'aime depuis qu'on se connaît. Et donc, je suis émue de l'entendre et presque impressionnée, mais je peux dire autant de choses sur elle. Sur sa puissance, sur sa liberté, sur son humour, sur son unicité. Il n'y a que Béatrice Dalle qui est Béatrice Dalle, vraiment.
Quand les jeunes femmes déclarent que King Kong Theory est le choc conceptuel de leur vie, que c'est un livre, votre livre, qui a changé leur vie, ça vous fait quoi ?
Ça m'impressionne. Je n'ai pas l'impression d'être l'auteur vraiment du livre. Et en même temps, j'imagine que c'est ce qui peut arriver de plus puissant à quelqu'un qui écrit. Mais quand on l'écrit, au moment où on l'écrit, au moment
c'est
où je l'écris...
C'est le livre le plus puissant que vous avez écrit.
C'est le livre qui a eu le plus d'impact. C'est le livre qui m'impressionne le plus dans son impact. Ça m'impressionne, moi, en fait. C'est le mot, c'est ça. Et ça me fait... J'imagine que ça m'a énormément réconcilié sur beaucoup de choses.
Pourquoi ?
Ça crée un rapport avec les lectrices, essentiellement, mais avec certains lecteurs aussi, mais surtout des lectrices. Je comprends ce qu'elles me disent parce que certains livres m'ont fait cet effet. Et de savoir que je reproduis avec un livre ce que moi, les livres m'ont apporté, ouais, c'est extrêmement impressionnant. Ouais.
Dans ce livre-là, vous racontez votre viol. Le viol que vous avez subi à l'âge de 17 ans, vous le racontez avec le plus absolu, le plus furieux sens du détail, la plus grande violence également. Et je vous cite... J'imagine toujours pouvoir en finir avec ça, liquider l'événement, le vider, l'épuiser. Impossible, il est fondateur. Aujourd'hui, vous avez liquidé le viol ?
Non, je ne crois pas qu'on en vienne à bout. Aujourd'hui, par contre, j'ai 10 ans de plus, 15 ans de plus que quand j'ai écrit King Kong Theory. Donc petit à petit, ça s'éloigne dans le temps. Et King Kong Theory a quand même été tellement l'occasion justement de revenir sur ce viol, mais d'une façon qui généreuse, politique, importante avec d'autres femmes. Que... Et aussi, les choses ont tellement changé. Et aussi, le fait que le livre, quand je l'ai écrit, je ne pensais pas que ça aurait un accueil positif. Je pensais que j'allais en prendre plein la gueule. Donc, ça, quelque chose est dépassé... qui est plus doux, ouais. Quelque chose à ou plus à distance, j'en sais rien. Mais on n'en termine pas, non, c'est ça, quand c'est fondateur, qu'est-ce que tu veux faire ?
Ça va pas tel que quand on est victime de quelque chose, on se dit tout de suite qu'on est victime, en fait. Même ça, on nous enlève. On se dit non, c'est de ma faute, je dois traverser une crise d'adolescence, je dois être caractérielle, ou je sais pas quoi. J'avais pas cette conscience de moi-même comme étant victime. Donc le désordre qui a régné dans ma vie, je n'ai pas même pu l'imputer à ça. Mais oui, en fait, ça a été très dur. Et oui, j'ai essayé de sauver la face. De commencer par sauver la face de Christophe Rougia lui-même, qui ne se voit pas en train d'abuser de moi. Je l'ai protégé lui, ça s'appelle de l'aliénation, ça. Et ça, c'est un procédé qui est bien à l'œuvre. Et protéger aussi mes parents, en fait, parce que j'étais juste, j'ai pas envie de leur faire de la peine. Mais oui, ça a été très long. Je ne sais pas quand clairement ça s'est fini, mais je sais qu'à un moment, c'était plus là. Que j'avais plus cette haine de moi-même. Et... ce désespoir, en fait, qui hantait toutes les choses.
Adèle Haenel, son témoignage très fort dans Mediapart, il vous a surpris, il vous a étonné, il vous a scié ?
Impressionné, il m'a enthousiasmé, en vérité, bizarrement. Il m'a... Ça se passe à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau où tu comprends que ça lui est arrivé, et il y a quelque chose de triste, parce que dans cette litanie depuis 2-3 ans du MeToo, il y a quelque chose quand même d'extrêmement triste. Parce que tu as l'impression que tant de gens qui t'entourent ont quelque chose à raconter de cet ordre-là, enfin tant de femmes, et que c'est trop, Même si j'avais toujours imaginé qu'il y avait plus de femmes agressées ou violées que ce qu'on dit, j'aurais jamais imaginé que c'était à ce point-là. Et il y a quelque chose qui rend triste, et ça rend triste quand c'est des gens que t'aimes bien encore plus, parce que t'as pas envie d'imaginer qu'ils portent ça. Et après, dans son interview, sa façon de le faire, je l'ai trouvé magistrale, parce que c'est Adalena qu'elle l'a porté d'une façon à la fois extrêmement émouvante et à la fois qui donne vraiment beaucoup de force. Et elle portait vraiment les deux, quoi, et la vulnérabilité et la puissance. Ouais.
Est-ce que vous diriez que MeToo a été un événement fondateur, un événement capital dans la relation entre les hommes et les femmes ?
Pas dans la relation entre les hommes et les femmes, dans la relation entre les femmes entre elles. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, les femmes, on est en train de se parler entre nous de ce qui nous arrive pour la première fois et d'établir aussi des liens de solidarité. Je me souviens par exemple quand Tristan Bannon a parlé, on n'est pas descendu dans la rue pour dire « moi je te crois ». Et pourtant, la plupart d'entre nous, on la croyait. On savait bien qu'on n'invente pas une histoire comme ça, « out of the blue », à moins d'être vraiment la psychopathe du coin, ça peut arriver, mais c'est rare en fait. Et on savait bien que cette histoire, elle se répète tout le temps. Nous, on le savait, n'empêche qu'on n'est pas descendu dans la rue pour dire « Tristan, nous on est avec toi ». Et c'est l'impression que MeToo a changé ça, d'être capable de se dire les unes aux autres « moi je te crois ». Moi, je suis avec toi et moi, je t'écoute. Parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les hommes, en tout cas les hommes de pouvoir, écoutent beaucoup ce qui est dit. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt en train de s'agacer de ce que ça dure un peu longtemps.
Vraiment ?
Des hommes de pouvoir, ouais, vraiment.
Vous n'avez pas l'impression qu'ils sont en train de changer, les hommes ?
Je crois qu'il y a des hommes jeunes qui entendent. Des hommes tranquilles, cool, qui étaient déjà cool, sont encore plus cool, enfin encore plus ouverts et encore plus capables de comprendre qu'il y a vraiment un problème. Les hommes qui ont le pouvoir, non, je crois qu'ils sont en train de se raidir. Je crois qu'on peut comprendre le film de Polanski comme ça. Quand Polanski décide de faire un parallèle entre le féminisme et l'antisémitisme et qu'on lui donne 22 millions pour faire son projet et que toute l'industrie du cinéma se met derrière lui pour dire on va y aller vraiment, je crois qu'ils sont en train de nous dire vous allez fermer vos gueules. Je le prends comme ça, moi, en tout cas. Et c'est pas le film en lui-même ne me dérange pas, Polanski en lui-même, je m'en fous. Mais je vois que l'industrie du cinéma, c'est comme ça que je l'entends, et nous dit, putain, vous allez fermer vos gueules. Et ça, je l'entends comme ça. Et donc, je pense pas que les hommes de pouvoir, en général, aient l'intention de céder quoi que ce soit sur leurs privilèges et sur leur supériorité. Que ce soit à l'égard des femmes ou à l'égard des grévistes dehors. En général, ils sont en train de nous dire, on se raidit sur nos acquis et on veut encore plus de pouvoir.
Mais ceux qui ont demandé, puisque vous parliez du film de Polanski, ceux et celles qui ont demandé le boycott du film, est-ce que vous le comprenez, vous ?
Je comprends qu'on demande le boycott. Je pense qu'on peut avoir une discussion. Après, je comprends aussi qu'on aille voir le film et que chacun fait ce qu'il veut et que, notamment, justement, les femmes, on n'a pas besoin de plus de surveillance sur est-ce qu'on veut.
Mais vous, Virginie Despentes, vous comprenez un boycott ou qu'on interdise une œuvre ?
Ça n'a pas marché. Et il n'y a pas d'interdiction. Il y a 22 millions de budget sur un film extrêmement bien distribué, très bien défendu par la presse, accepté par tous les exploitants. Enfin, moi, je vois plutôt une solidarité autour de ce projet de la part de l'industrie du cinéma pour le soutenir absolument. Donc, on est très loin de la censure.
Sur un autre sujet, on va interdire une exposition Gauguin parce qu'il vivait avec des petites filles. L'éternel, le sempiternel débat entre l'homme et son œuvre qui existe depuis Céline et même avant. Vous, la défenseuse des libertés que vous êtes, ça ne vous gêne pas qu'on dise on interdit une expo de Gauguin ?
Alors franchement, je m'en fous un peu de Gauguin, donc c'est particulier. Il y a des œuvres, ça me gênerait beaucoup. Après Gauguin, c'est des petites filles qui ont probablement jamais été d'accord pour coucher avec ce vieux monsieur violé, qu'on va garder pour l'éternité dans des musées comme des choses. C'est très joli de regarder cette petite qui probablement vient d'être violée et qui sera peut-être reviolée demain, que ça lui plaise ou peut-être sa famille, c'est pareil, on s'en fout, ça lui arrivera de toute façon. Donc qu'on questionne. La sérénité, la joie de la chose, ça ne me dérange pas.
Annie Ernaux dit que MeToo fut une déflagration immense pour elle, qu'elle pensait qu'elle allait mourir sans voir la révolution des femmes, et qu'elle l'a vue. Et quand je lui ai demandé s'il n'y avait pas aussi dans cette libération de la parole des femmes des excès, écoutez ce qu'elle répond.
Je n'aime pas ce terme d'excès. Le mot excès est toujours prononcé lorsqu'il s'agit justement des dominés qui réclament des droits. Oui, il y a eu des excès, mais bien sûr, je veux dire, je ne peux même pas parler de ça. Quand il y a un mouvement de révolte, et c'est un mouvement de révolte des femmes, eh bien, oui, la contention qu'on a subie fait qu'on crie plus fort et quelquefois, peut-être à tort, voilà.
Mais moi, j'aime bien Annie Ernaux, j'aime beaucoup ses livres et j'aime bien ses interventions publiques, donc je suis tout à fait...
Vous êtes d'accord avec elle sur l'idée d'excès ? Quand elle dit « j'aime pas le terme d'excès », oui, quand il y a une révolution, parfois il y a des excès et c'est pas grave.
C'est pas ce qu'elle dit, elle dit que c'est un mot qu'on utilise, on se pose la question de l'excès quand c'est le dominé ou le subalterne qui se plaint. On n'utilise pas le terme d'excès à tout bout de champ quand c'est le puissant qui exerce sa puissance. Alors que celui qui exerce sa puissance avec excès à longueur de journée et de façon systémique, c'est le puissant.
Il y a une femme à contre-temps de ce qu'on entend, Elisabeth Badinter.
Il faut cesser de penser que la femme est une victime née. Les hommes ne sont pas tous de potentiels agresseurs, comme le dit Caroline de Haas. C'est pas vrai. Et moi, j'entends beaucoup de jeunes hommes qui sont maintenant terrorisés, qui ne savent pas comment faire, quoi dire. Un mot pour vous clouer au pilori. Je n'en peux plus. Je vais vous dire, Léa Salamé, j'étouffe. Voilà, j'étouffe. Où on est maintenant? On ne peut plus avoir de deuxième degré, on ne peut plus plaisanter. Il y a une espèce de chape de plomb qui est en train de peser sur nous tous les jours un peu plus.
Elisabeth, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire.
Vous n'êtes d'accord avec rien de ce qu'elle dit.
D'accord avec rien de ce qu'elle dit. Je la vois pas comme l'exemple d'une évolution heureuse. Je sais pas ce qui s'est passé pour elle, quoi. Mais à un moment donné, on a l'impression que la lumière s'est éteinte dans le monde d'Elisabeth Badinter et qu'elle raconte à peu près que des conneries.
Elle est une femme qui a quand même beaucoup marqué les féministes quand elle écrit que l'instinct maternel n'existe pas.
C'était il y a 40 ans. Ouais, ça, les choses ont beaucoup changé dans son discours. Il y a beaucoup de gens qui changent. C'est comme une dérive, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle est rentrée dans l'obscurité de la pensée la plus. Et je sais pas quoi dire, quoi, du coup. Parce que, non, les femmes sont pas des victimes, mais de facto, si elles sont aussi nombreuses à s'exprimer pour dire, quand même, je suis pas du tout contente de ce qui m'est arrivé, je sais pas comment faire, c'est pas juste pour faire chier.
Non, mais elle dénonce le féminisme victimaire de. Est-ce qu'au fond, elles ne sont pas résumées ou assignées à cette résidence de « j'ai été victime » ?
Non, parce que dans un premier temps, il faut parler. Je pense que là, la chose la plus importante, c'était le silence de la victime et le silence des femmes en général. Ceux qui avaient droit au chapitre en toute chose, c'était la parole masculine. Et notamment la parole masculine blanche des hommes de pouvoir. C'est-à-dire, c'était une parole quand même précise. On n'a pas entendu toutes les paroles d'hommes, mais celles des hommes blancs de pouvoir, c'est eux qui devaient s'exprimer sur tout, y compris sur les femmes, et comment on devait se sentir, et comment on devait se comporter, ce qui était bien pour nous. Et donc, sortir du silence, c'est une première étape. C'est exactement ce que disait Adèle Haenel tout à l'heure. On est désolé si la première chose qu'on a à dire, c'est par exemple, on a été violé. Massivement, on a été agressé. Massivement, on a été battu. Massivement, on a été humilié. Et massivement, c'est un problème d'être dans l'espace public, d'aller travailler, parce que les hommes considèrent toujours que les femmes sont en gros des espèces d'agréments à droite à gauche dans lesquels on tape quand on en a envie.
Les choses n'ont pas changé, Virginie.
J'ai pas l'impression qu'elles changent si vite que ça. Elles changent, elles peuvent changer. Quand il y a eu la Coupe du Monde de foot féminine cet été et qu'on voyait des papas qui emmenaient leurs filles regarder les matchs, je pense que ça change quelque chose dans la tête des petites filles. Et je pense que si des petits garçons pouvaient voir leur papa défiler dans la rue en disant « Non, je veux pas tuer des filles, je veux pas violer des femmes, je veux pas qu'elles se sentent mal à cause de mon attitude au travail, j'ai envie d'être avec elles sereinement ou d'une façon ludique et marrante », je pense que ça changerait dans la tête des petits garçons, ça changerait quelque chose.
Il y a une forme de colère que vous avez encore eu à l'égard des hommes. Vous êtes un peu pessimiste.
Je suis plus en colère qu'il y a un an. J'ai jamais été autant en colère contre les hommes parce que ouais, je trouve qu'il manque d'envie et d'appétence pour rentrer en dialogue avec nous et se dire évidemment que votre lutte c'est la nôtre, puisque justement on n'est pas tous des imbéciles, on n'est pas tous des gens qui profitons de votre désarroi et de votre vulnérabilité, on a envie de vivre avec vous, faire la fête avec vous, baiser avec vous, vraiment travailler avec vous et que ça se passe bien pour tout le monde. Et ouais, je suis déçue, je suis énervée, plus que déçue, de ce que les mecs, t'as l'impression qu'ils vont mettre encore combien de temps, 50 ans avant d'écouter ce qui est en train de se passer, et que la seule réaction qu'ils ont tout le temps, c'est questionner la parole des victimes, se demander si ça a été bien dit, si elles ont eu raison, s'inquiéter de ce que le bourreau sera peut-être pas trop à l'aise. Merde, les gars, parlez avec nous, même nous qui couchons pas avec vous, on vit avec vous quand même, donc essayons d'imaginer ensemble un monde dans lequel ce soit cool de vivre avec vous, et ça va être à vous de faire l'effort. Mais je suis déçue.
Il y en a quelques-uns qui essayent, quand même. Yvon Jablonka a créé un livre sur ça.
Ouais, mais on va pas aller les chercher à la pince, à épiler un par un. Ça doit être massif, quoi. Le problème est massif, donc il faudrait que ce soit une réaction. Puis je trouve qu'ils pourraient le faire avec un peu d'enthousiasme. Merde, les gars, quoi.
Vous dites toujours, le sexe, c'est le sujet tabou à reconquérir pour les femmes. C'est la clé de leur émancipation définitive. La question du sexe n'a pas été réglée, écrivez-vous.
Je ne sais pas si c'est vraiment la question de leur émancipation définitive, mais je crois toujours que c'est vraiment que c'est pas réglé.
Mais qu'est-ce qui n'est pas réglé dans la question du sexe ?
Ça a un exemple très simple, une jeune fille, admettons une adolescente de 14 ans, est filmée en train de sucer un garçon. Et ça, c'est diffusé dans son école ou sur les réseaux sociaux. J'entends jamais parler d'exemple où on dit « Ouais, cette meuf, elle a sucé toutes les plus belles bites du lycée, c'est vraiment un super coup, elle suce comme une reine, c'est génial. » Je vois jamais ça.
On dit quoi alors de cette fille?
Bon, en tout cas, cette fille, elle est perdue, elle a perdu sa dignité, elle va peut-être se suicider. Et en général, c'est un problème. Des fois, elles réussissent, de ce que je comprends, des jeunes filles, à s'en débrouiller. Mais ça reste, c'est pas son activité. C'est comme si c'était pas bien. Alors que du côté des garçons, je vois jamais de garçon hétérosexuel qui, dont on dit, il a failli se suicider parce qu'une vidéo de lui en train de se faire sucer était, alors que c'est la même activité et elle est plutôt joyeuse et positive pour l'un comme pour l'autre. C'est pas très grave de sucer une bite, en vérité. C'est pas, ça, on ne va pas perdre des points
d'unité. Aujourd'hui
d'unité,
encore, ça reste quelque chose de mal.
Ben, il me semble. Il me semble que ça reste quelque chose de mal. Ça reste quelque chose de mal de faire du X, ça reste quelque chose de mal d'être une chaudasse, ça reste quelque chose de mal. Alors que chez les mecs, n'importe quoi, dans tous les sens, tout leur va bien. Et c'est bien, je suis contente pour eux, simplement, je pense que vu qu'il y a quand même une hétérosexualité, ça existe, et vu que ça se fait les uns avec les autres, je trouve que les filles devraient avoir à peu près les mêmes, la même joie à le faire, et la même pouvoir frimer de la même façon à l'école en disant, ouais, je suis une suceuse, mais d'enfer, et que ce soit pas. Non, mais c'est vrai, ça devrait
être.
Mais
le sujet va être réglé parce que quand on vous écoute, ce que vous dites, c'est, à mon avis, dans 20 ans, la plupart des meufs seront lesbiennes. Donc il n'y aura plus de problème de fellation.
Et il n'y aura plus de problème non plus de vidéo parce qu'effectivement, si deux femmes s'attrapent et se filment, si la vidéo est divulguée, il n'y a pas une des deux qui perd sa dignité et l'autre qui gagne en point de crédibilité.
Et donc on va toutes devenir lesbiennes.
Ben, ça me paraît être une solution. Si je cherche des, parce que je cherche des solutions et ça me paraît être une solution plutôt joyeuse.
Donc rendre les hommes totalement inutiles.
Ben, ils seront gays.
Ah.
Je les vois très contents.
Chacun
quand ils sont
chez
gays.
Soi, Dieu pour tous.
Ben, effectivement, une solution, c'est démerdez-vous de votre côté entre vous. En plus, ils ont l'air contents quand même.
C'est bien
quand ils sont
l'altérité
entre
aussi, non?
Ben, c'est bien quand les deux parties veulent bien que ça se passe bien pour les deux. Si ton plaisir vient forcément de ma destruction, tu me poses un problème.
C'est quand même souvent que l'homme a envie de faire plaisir à la femme, non?
Et c'est quand même souvent qu'il a envie de la détruire ou qu'il s'en fout complètement. C'est trop souvent, c'est ce qu'on découvre.
Virginie Despentes, un mot revient systématiquement dans votre bouche quand vous évoquez votre homosexualité. Vous l'avez découverte sur le tard, votre homosexualité, à l'âge de 35 ans. C'est le soulagement.
Ah, dans mon cas, ça a été ça. Ouais. Ça a été vraiment un soulagement, mais comme, ça a été probablement...
Enfin.
Mais pas seulement enfin, c'est, j'avais pas, parce qu'en plus j'avais plein de copines lesbiennes, mais j'avais pas encore compris à quel point c'est mieux, quoi. J'avais pas, sinon j'aurais réfléchi plus tôt, quoi. Et j'avais pas, et c'est pour ça que je le dis à tout le monde, parce que j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'étais petite.
Mais on se dit pas ces choses-là. Enfin, on l'est, on le ressent, donc.
Je crois qu'on peut y être plus ou moins ouvert, on peut être plus ou moins, quand je repense à ma vie, je me dis, mais il y a des fois, je suis passée à côté d'occasions extraordinaires parce que j'ai pas compris que j'étais en face de lesbiennes géniales, qui étaient amoureuses de moi, mais quand j'étais petite, j'ai pas compris et je me dis, faut le dire à toutes les jeunes filles, pensez-y, si ça vous arrive et qu'une fille géniale est amoureuse de vous et qu'elle vous plaît, faut pas être copine. Faut être avec tout de suite, faut coucher avec, faut faire sa vie avec, faut
et
tout faire avec.
Et pourquoi c'est mieux?
Parce que c'est beaucoup plus simple, parce que c'est beaucoup plus joyeux, parce que justement, on n'est pas tout le temps en train de se retaper à la maison et dans l'histoire d'amour des trucs extrêmement douloureux, parce que l'histoire entre les hommes et les femmes, c'est extrêmement douloureux. Et donc, on invente autre chose, et aussi parce qu'on est soustrait à quelque chose qui est le regard de l'homme, qui a tout le temps dit ce qui était bien pour elle, ce qui était bien dans son attitude, ce qui était bien pour sa psyché, pour sa libido. Là, dès que tu sors de l'hétérosexualité, tu sors de tout ça, de cette exigence masculine qui porte sur toi tout le temps. Et il se trouve que ouais, c'est un soulagement, en tout cas pour moi, et je vois bien que c'est pas que pour moi, en fait. Hein, c'est vraiment une fête, quoi.
Alors, on est toutes remplies de contradictions. Vous me dites ça, vous dites tout ce que vous venez de dire, et en même temps, vous adorez Pretty Woman.
I'd really like to see you again.
You would?
Yes. Yes, I would. I've arranged for you to have an apartment, to have a car. Have a wide variety of stores guaranteed to suck up to you anytime you want to go shopping. Everything's done.
What else? You can leave some money by the bed when you pass through town?
Vivian, it really wouldn't be like that.
How would it be?
Well, for one thing, it would get you off the streets.
That's just geography.
J'adore tous les films de Julia Roberts, même parce qu'elle n'a pas fait que des films géniaux, je m'en fous. J'adore tous les films de Julia Roberts.
Tu es amoureuse de Julia Roberts?
Je ne suis pas amoureuse de Julia Roberts, mais j'aime vraiment... Enfin, je serais volontiers amoureuse de Julia Roberts en même temps, je dis ça, mais.
Enfin, Pretty Woman, c'est quand même le film hétéro par excellence, quoi.
Bon, on n'a pas trop le choix parce qu'il n'y a pas eu vraiment un cinéma lesbien. À un moment donné, j'ai préparé le film Bye Bye Blondie, qui était une romance lesbienne. Et donc, j'ai regardé, à l'époque, on pouvait regarder tous les films lesbiens. Il y en avait 20, 25 maximum, quoi. Donc, c'est pas comme si on avait été écrasé par le poids du cinéma lesbien. Parce que si Julia Roberts avait tourné un film d'amour avec Suzanne Sarandon, je suis sûre que j'aurais été contente aussi. Enfin, je me serais pas... J'aime bien les chargeurs, mais c'est vrai que je l'aurais remplacé sans problème par un tas d'autres meufs.
Ça, on a compris. On a compris.
Love is a losing game. On retourne tout de suite dans le 19e arrondissement de Paris chez Virginie Despentes.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Toutes les femmes que j'ai interviewées dans cette série ont un rapport particulier au père, qu'il les ait encouragées ou bloquées. Le rapport au père, il est comment chez vous ?
Oui, effectivement, j'ai un rapport particulier à mon père. C'est quelqu'un que j'admire. Qui m'a poussée. Il est trop réservé. Mon père est très réservé. On a un rapport très... mais en tout cas, il m'a jamais freinée et il m'a jamais demandé d'être une jeune fille convenable. Et je crois que par contre, mon intelligence scolaire le rendait extrêmement fière. Enfin, jusqu'à ce que je commence à déconner complètement, mais quand j'étais petite, quoi. C'est un modèle pour moi au sens où c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui s'est donné les moyens de son ambition. Et le fait de vivre avec quelqu'un en étant petite, en voyant mon père étudier tout le temps, apprendre des choses nouvelles, progresser tout le temps, je pense que ça m'a vraiment... Là, c'est dans mon fondement.
Vous avez voulu aussi réussir pour lui faire plaisir ?
Non, parce que si tu t'écris pas, baise-moi pour faire plaisir à ton papa.
Non.
Donc, mais ça me fait plaisir.
Ça
me fait
comme ça, non.
Mais je crois que ça lui fait plaisir, parce que ça se passe bien pour moi sur la longueur.
Bon, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien ma vie, vraiment. Avez-vous déclaré début 2015 ? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien ma vie. C'est rare que les gens disent ça.
Mais c'est vrai, dans mon cas, je ne m'attendais pas. Et encore, je le dirais encore aujourd'hui, encore plus. Je n'attendais pas des choses... Rien de ce qui m'est arrivé, je l'avais imaginé, en fait. Je n'avais jamais, ne serait-ce que imaginé gagner ma vie en écrivant des romans et que ça dure aussi. Mais là, ça fait 25 ans que ça dure. Jamais j'aurais imaginé une chose pareille. Et ça me plaît beaucoup.
Ça fait quoi d'avoir 50 ans ?
Ça m'impressionne beaucoup. J'arrête pas de dire impressionné. Mais parce que là, c'est comme s'il y avait au fond de moi quelqu'un qui croyait que ça lui arriverait jamais. Je le savais, hein, que ça allait m'arriver. Mais quelque part, ça
à la fin, on meurt aussi. Hein, je ne vous l'ai peut-être pas dit.
Et il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui pense que non, jamais. Qui ne peut pas encore y croire. Qui se dit que ce n'est pas vrai. Et je ne vais pas, avant de mourir, en plus, vieillir. Ça me paraît totalement injuste et j'ai l'impression que je pourrais faire quelque chose. Et non, donc moi, ça me. À la fois, je suis très contente parce que je me sens très calme. Je me sens plus puissante, justement, au sens où je me sens plus sûre de moi dans ma capacité de me régénérer tout le temps et de me remettre des choses. Et j'ai plus de distance aussi. Et à la fois, j'arrive pas à imaginer moi, madame. Il y a quelque chose où je me dis, pourtant, je veux devenir une madame. Enfin, il n'y a pas une madame. Je suis déjà une madame, mais je veux devenir une madame vieille. Je veux devenir une madame vieille. J'arrive pas encore à trop l'imaginer. Donc ça, je vais voir comment ça se passe, quoi, comment ça s'invente.
Passé 40 ans, tout le monde ressemble à une ville bombardée. Alors, passé 50 ans, on ressemble à quoi ?
Bah, une ville dévastée, c'est Alep, quoi, au bout d'un moment de l'histoire, quoi. Il n'y a pas de.
Ça se termine mal, de toutes les manières.
Ah, bah, ça ne va pas dans le bon sens.
Vous êtes d'accord avec Anne Moix, ce qu'il a dit sur la femme de 50 ans, qui n'est plus désirable, tout ça ?
Ah, non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je suis d'accord que, avec le temps, physiquement, il faut dire ce qui est, ça dégénère. Hein. À 80 ans, je ne serais pas. Plus en forme qu'aujourd'hui. Enfin, il y a très peu de chances pour que je sois plus en forme.
Mais aujourd'hui, à 50 ans, vous vous sentez
désirable, ouais, tout
ouais,
à fait.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous
des femmes de 50 ans, ouais, jusqu'à 75, 80, 85, sans problème, ouais. Non, je suis pas là-dessus. Je suis pas Yann Moix, mais au sens où de toute façon, il y a quelque chose chez moi. Je suis pas avare de mon désir. Je désire beaucoup. Je suis très amoureuse, beaucoup. Je suis très généreuse pour le coup là-dessus. J'ai un désir.
Et le désir ne baisse pas à 50 ans, aussi.
Ah non, au contraire. Non, parce qu'on sait qu'on va mourir, justement. Il y a quelque chose de. On comprend vraiment physiquement que quelque chose va se passer, que c'est compté. C'est quelque chose qu'on ne sent pas du tout, je trouve, à 30 ans. On n'est pas pressé de la même façon. On est pressé d'une autre façon à 30 ans. À 50 ans, on est. Et les choses deviennent. Se mettent à avoir énormément de valeur. Parce qu'on sait que chaque chose qu'on vit, éventuellement, c'est peut-être la dernière fois qu'on la vit avec cette intensité. On est. Et ça devient vrai. C'est pas une histoire qu'on se raconte.
Et
c'est
donc
vrai.
Ça devient mieux. Le plaisir, le mieux. Désir, devient, le sexe.
On lui donne encore plus de valeur. Ouais. On sait que ça a une valeur extraordinaire.
Vous n'avez pas eu d'enfant ?
Non.
C'est un choix ?
Ça a été, non, ça n'a pas été un choix, ça s'est trouvé comme ça. Disons que j'en suis très contente.
Pas de regrets ?
J'ai pas de regrets, j'ai pas de.
Manque ?
Oh non, j'ai aucun manque. Et quand je vois les gens qui en ont fait, j'ai pas l'impression que ce soit si génial que ça. Je vois ce que ça a de bien et je vois aussi ce que ça a de super fatigant, d'hyper angoissant. J'aimerais pas avoir un enfant. De 20 ans aujourd'hui et lui dire voilà, ça c'est le monde dans lequel tu vas vivre, vas-y, ça va être, non, ça va pas être génial. Souvent j'ai peur, comme je le disais au début de l'émission, et je serais embarrassée, je crois, d'avoir un enfant.
L'Académie française, Virginie Despentes, vous y pensez ?
Non. Non, en respectabilité, là, ça y est, j'ai eu ma dose.
C'est fait. Le Goncourt, vous êtes à votre max ?
Ouais, je suis à mon. Ouais, non.
Mais vous, au milieu des jurés Goncourt, quand même, c'est une image. Ça se passe comment ?
Ça se passe bien, je me sens écoutée. Ils sont assez débonnaires, ils savaient qui venait. C'est pas comme si j'étais arrivée, toc toc, et personne savait qui ça allait. Non, c'est Madame Besoin, ils savent bien que c'est Madame Besoin qui vient. Bonjour, c'est Madame Besoin, ça va, ouais, ça va bien. Ils sont assez. C'est eux qui m'ont demandé de venir. Ils sont ouverts, ouais, ils ont envie, je crois, de pas tous lire la même chose, par exemple. Et je vois qu'ils lisent les romans. Après, ils les apprécient pas toujours, mais ils
Vous essayez de leur ouvrir vers un nouveau champ ?
Non, c'est pas comme ça, mais je lis de facto des choses qu'ils disent pas, et je vois qu'ils essayent, ils ouvrent. Parfois, ça leur plaît. Souvent, ils sont un peu, ils voient pas bien ce qui m'arrive, quoi. Mais ils le font. Ils font la démarche. Et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont invité à les rejoindre.
Ouais. Et ça vous plaît, d'être jurée Goncourt ?
Ouais, ça me plaît. Ça prend beaucoup de temps.
Mais alors, pourquoi pas viser l'Académie française, carrément ? Vous seriez bien en costume ?
Parce que je dis, ça y est, quoi.
On est au max.
On est au max, on est bien.
C'est Après, fait. Ce sera trop.
Et il ne faut pas oublier que c'est un boulot, tous ces trucs phénoménales. Donc non, il y a d'autres choses dont j'ai envie.
Quoi ?
J'ai envie de plein d'autres choses, mais je n'ai pas envie de plus d'institutions littéraires. Mais ça, c'est fait, quoi.
Ouais. Ouais. Est-ce que les honneurs corrompent ?
C'est une vraie réflexion. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent corrompre. Mais les honneurs, parce que c'est pareil, il faut aussi, il faut de la reconnaissance. Il y a plein de sortes de reconnaissance, mais sans reconnaissance, à un moment donné, je pense que ça devient, c'est vraiment difficile de faire le chemin. C'est quelque chose de très solitaire, l'écriture, quand même. Si t'as jamais de reconnaissance, ça se fait, hein, mais c'est vraiment douloureux.
Quelques questions de fin, Virginie Despentes, vous êtes libre de répondre, de ne pas répondre, c'est comme vous voulez. Okay. Vous êtes un homme 24 heures, vous faites quoi?
Backroom.
Backroom. Liberté, égalité, fraternité, vous préférez lequel?
Liberté.
Qu'est-ce qui vous émeut?
Les chiens.
L'argent fait-il le bonheur?
L'absence d'argent est vraiment un problème.
Brigitte Macron, plus de 20 ans plus âgée que son mari, c'est rock?
Non, c'est, on ne devrait pas faire de commentaires. Le fait qu'on fasse des commentaires dit bien qu'on a encore beaucoup de chemin à faire.
Vous avez beaucoup menti dans cet entretien?
Non.
Vous mentez souvent?
Non. C'est pas mon... Non.
Vous n'êtes pas une menteuse?
Je peux mentir parce que des fois je fais des trucs que j'ai pas envie d'assumer. Je peux mentir. Mais en entretien notamment, je mens rarement.
Merci beaucoup Virginie Despentes. Merci de nous avoir reçus chez vous pour ce moment franc.
Merci.
Junior, à l'instant sur France Inter, ah bah d'accord. Cette émission a été préparée par Outi Shraniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda et Marie-Elisabeth Jacquet. À la prise de son, Laurent Lucas, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la réalisation Sonia Leglen. Bon samedi à tous, demain dans Femmes Puissantes, ce sera elle.
Je dis toujours que la com, c'est le latin et le grec. Il faut comprendre l'environnement, il faut comprendre le bonhomme. Alors moi, j'ai tas de défauts, mais tous les gens, même ceux qui ne peuvent pas me voir, vous diront, je suis extrêmement cash et extrêmement directe.